La table, c'est l'entremetteuse de l'amour et de l'amitié. Dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu aimes. Un restaurant, un rendez-vous, se mettre à table avec l'être aimé. Manger ses yeux, boire ses mots, juste se délecter.
À table, les grands repas de famille, longues tablées, orgies de gras, défilés de plats, valse des viandes, noble bœuf, humble cochon. Oh, on a trop bu, on a trop mangé, on a trop ri, on a trop parlé, on a trop saucé, la nappe est bien tachée.
Et puis, on débarrasse, le lave-vaisselle est chargé à bloc. On range, on balaye, on ramasse. Tiens, Hélène a oublié son écharpe.
Elle aurait mieux fait de la garder, son écharpe, parce que la tempête Ciara est passée par là en soufflant. Et maintenant, ta table de jardin en plastique blanc, elle est quelque part entre Düsseldorf et les Balkans.
Parfois, il faut aussi se mettre à table avec l'adversaire. Pour jouer au ping-pong? Oui, mais pas seulement. Se mettre à table aussi pour discuter, pour négocier.
En tout cas, nous, on est reparti. On remet le couvert. Bon appétit, bonne émission. Bienvenue à tous à notre table. Bienvenue dans le Bruxelles Pistache Club! Bonjour
Thomas,
à tous,
salut,
salut,
bonjour à tous,
bonjour Mehdi,
santé à toi Thomas,
yes, quatrième épisode,
oh ça avance vite, ça avance
quatrième
vite.
Épisode sur 211, bravo,
c'est beau, merci à toi, merci,
yes,
aux pistaches
merci à
qui
à
nous écoutent,
tout à fait, merci beaucoup à tous pour vos beaux petits messages qu'on reçoit, je
c'est
vous
vrai,
assure,
ça fait plaisir, vraiment, vraiment.
Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Continuez
on les garde,
à nous
on les imprime,
comme ça.
On les affiche chez nous au studio,
vous c'est... êtes trop adorables, merci beaucoup. Aujourd'hui au menu, un spécial sur les plaisirs de la table.
Ouh, j'ai justement très faim, Thomas, ça tombe
magnifique.
Bien.
Alors au menu aujourd'hui, Mehdi, des produits du terroir, des petits produits bruxellois, des petites blagues, des histoires un peu de patrimoine gastronomique, mais aussi des dégustations, attention. Alors pour commencer, je te propose directement un petit jeu, Mehdi.
Parfait, parfait, je suis prêt.
Oh là là là.
C'est direct là.
Ouais, aujourd'hui c'est direct, direct. Aujourd'hui, un petit jeu spécialement pour toi. Mais alors on va se mettre dans l'ambiance des plats et de la chanson. J'ai fait appel à des grands chanteurs belges pour qu'ils chantent la gastronomie de notre pays.
Il y a beaucoup de gens qui attendent ça, à mon avis.
Ouais. Donc merci déjà à toutes les personnes qui ont collaboré. Merci à ces grandes vedettes d'avoir pris un peu de temps pour défendre nos plats. Ça nous fait vraiment plaisir. Et donc, Mehdi, c'est à chaque fois une chanson qui parle d'un plat, mais dans le refrain, il y a le nom de ce plat. Moi, je vais couper juste avant le refrain et je vais te demander de trouver le plat, si tu sais même de continuer la chanson, de chanter avec nos amis.
Allons-y.
Est-ce que c'est possible ?
C'est possible.
Allez, c'est parti. Attention, premier extrait.
Prends ta casserole à pression, épluche de pommes de terre et hache de petits oignons. Tout le monde aime ses légumes verts, surtout quand il est écrasé avec des pommes de terre. Je fais un...
Un supermentier ?
Ah non, non, c'est...
Un stump. Je fais un stump.
Un stump à quoi ?
Un stump.
On écoute, attention, réponse tout de suite, on vérifie ensemble.
Tout le monde aime ses légumes verts, surtout quand il est écrasé avec des pommes de terre. Je fais un stump au chou.
Un stump au chou pour toi.
Tu écraseras le chou.
Moutarde, on verra. Voilà, merci Angèle pour ce. Mais bravo, merci, t'avais presque la réponse quand même, bravo quoi. Ouais. Ah, je suis parmentier, chapeau, voilà. Bravo. Ce sont des plats belges, vraiment des plats belges, attention, typique. Hein, c'est... Voilà, c'est la thématique de la journée.
C'est vrai, c'est vrai.
Attention. Deuxième extrait. Est-ce que tu es prêt pour le deuxième
je
extrait
suis prêt.
C'est parti, attention, deuxième extrait.
jamais je n'aurais pensé. Tant besoin d'endive, mais je me sens si affamé. Que ma maman me dit pour midi, ton plat est au four. Béchamel tout autour. J'aime, j'aime ta crème, j'aime ton odeur, ton petit jambon en rouleur. C'est un plat assez fin.
Le chicon gratin.
Ouais, mais dis, bravo, félicitations. On écoute la suite, réponse, la attention. Suite. C'est parti.
Ton odeur, ton petit jambon en rouleur, c'est un plat assez fin.
Chicon gratin.
Oh, stop, un instant, j'aimerais que ma maman fasse pour toute la table son chicon gratiné.
Merci Axel,
merci Axel Red, le chicon gratiné.
Mmh, un délice.
Est-ce que tu savais que le chicon avait été inventé à Bruxelles?
Non.
Bah, c'est la légende. Ouais, c'est la légende de 1830 à Skarbek justement, ici, dans notre belle commune de Skarbek. Il s'en passe ici. Hein. Ouais, et donc la légende veut que un cultivateur de chicorée, pour ne pas déclarer toute sa production, avait caché sous un peu de terre comme ça des racines de chicorée pour dire non, j'en cultive pas trop, j'en déclare pas trop. Et quelques semaines plus tard, il était revenu dans sa cave. Et qu'est-ce qu'il avait vu ?
Des chicons
qui étaient apparus, bam. Et donc, il s'était empressé d'aller les vendre
au marché.
Et ça, c'était la mentalité de l'époque. C'est que tu voyais un truc bizarre qui avait l'air plus ou moins bon, tu es allé au marché les vendre. Quoi. Donc, on critique souvent l'AFSCA, mais quand même, je trouve que c'est quand même bien que des gens vérifient un peu avant. Quoi.
Voilà. Bah, les chicons sont sympas quand même.
Ouais. Mais bon, voilà, donc c'était la légende de Bruxelles en 1830. Le chicon est apparu ici.
Et est né dans une cave de Skarbek.
Tout à fait. Si. Attention, est-ce que tu es prêt pour le troisième plat ? Attention, Mehdi, c'est du lourd.
Hey, grosse vache, oups, petit bœuf. Je vais te couper en dés de trois doigts de côté. Découper les oignons de manière grossière. Tu vas faire fondre du beurre et c'est pas... Hey, reviens ! 10 minutes, quoi. Les oignons dorés, mais la viande feu doux. Et 3 heures mijotées. Pour les plats comme ça, vous faut de la cassonade. Vous faut la diluer pour faire des...
Carbonade.
Oh, magnifique, bravo Mehdi, fantastique, magnifique. Attention, on écoute la réponse. C'est parti.
Mais la viande feu doux. Et 3 heures mijotées. Pour les plats comme ça, vous faut de la cassonade. Il faut la diluer pour faire des carbonades. Carbonades. Pour faire des carbonades, je fais des carbonades. Tu me fais des carbonades. Carbonades.
Ah, excellent.
Merci beaucoup pour ça. Voilà, c'était le petit jeu 2 sur 3, Mehdi, bravo, franchement, bravo.
Mais j'ai un panel de stars.
C'est vraiment... j'ai donné de ma personne pour faire ça.
C'est du beau boulot.
Il faut savoir que j'enregistre ça juste à côté de ma femme qui fait des corrections, donc qui est institutrice et qui fait ses corrections, et moi je chante comme ça et c'est vraiment dur.
Tiens à dire que c'est attendu à chaque fois par les pistaches.
C'est très dur d'assumer de chanter les carbonades.
Je suis sûr qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui chantent la chanson des kangourous.
Peut-être, qui sait. Je ferai une compile pour Noël l'année prochaine.
Il faudra.
C'était le petit jeu de la carbonade. Alors, tu sais pourquoi on appelle ça la carbonade, Mehdi ?
Non.
Au départ, ça vient du sud de la France et c'était tout simplement de la viande cuite sur du charbon.
Ah, okay.
Petit à petit, la recette améliore toujours ce que
les Français font.
Exactement, voilà. Et donc ici, c'est la carbonade flamande dont je parlais dans cette recette. Parce que c'était moi, en fait.
c'était pas Stromae.
C'était pas le vrai.
Stromae, si tu nous entends, rejoins les pistaches.
Mehdi, maintenant, je te propose un premier arrêt dégustation.
Ouh.
Alors, avec ce que l'on appelle le Bloom Punch.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On appelle ça aussi le Blutpens. C'est le boudin au sang. Littéralement, c'est du boudin au sang, quoi. Vu de loin sur une photo, ça peut faire penser à un dessert au chocolat.
Ouais.
Mais c'est pas du tout ça.
Non.
Non, vraiment pas. Donc, c'est une sorte de gros boudin sphérique, noir. Il est composé d'abats, de morceaux de poumons. Et c'est piqué de gros cubes de gras.
Ça va être bon.
Il faut vraiment voir ça comme un espèce de gros boudin, tout ça évidemment mélangé avec du sang et fourré dans une baudruche. Et
donc, un là, peu je le pense... plat du pauvre.
Tout à fait, c'était le steak du pauvre avant, tout à fait. Et c'était pour ça qu'à Bruxelles, dans les Marolles, etc., c'était vraiment très connu ce, ce Blutpens. Et voilà, c'est très très bon et j'en ai cuisiné un pour toi ce soir. Alors, c'est pas facile à trouver. J'ai fait quelques petites boucheries traditionnelles, ah, c'est beau, etc. Et celle où finalement j'ai pu le trouver, c'est... la boucherie Bremer.
Ah, en bas de chez nous.
Ouais, juste en bas de chez nous. J'ai fait 12 boucheries traditionnelles du centre des Marolles et tout.
Merci,
rien.
Merci Bremer, non. Merci.
Et juste Bremer. Ici à Scarbeck, bam, Blutpens, voilà. Ceci. Bravo à eux. Mehdi, est-ce que tu es prêt à goûter le Blutpens?
Pour nos auditeurs, il faut quand même faire une petite photo de ce préparation.
Oui, mais je vais en faire une tout de suite.
Cool.
Alors.
Bon, Thomas est en direction de la cuisine. Il va chercher le Blutpens. Il y a des gens qui doivent aimer ça, donc ça doit être sûrement bon, mais à vue, on dirait un grand cookies. Mais un grand cookies qui sent le boudin noir. Alors le boudin noir, moi j'adore, donc ça tombe bien, mais on va voir tout de suite. Il m'a fourni la fourchette. Alors les gars, ça sent bon. Franchement, Thomas, ça sent bon.
Oui, je suis de retour, j'ai voilà. Été...
Ça sent
le boudin noir.
Ça sent le boudin noir.
Ça sent le boudin noir, mais en plus gras et avec plus de petits morceaux de poumons de porc. Bon appétit, mais je vous souhaite vraiment un bon appétit. Bon, c'est un mets très fin.
Franchement, je goûte en live. Hein. Je suis avec la fourchette.
C'est croquant, là. Je l'ai un peu trop cuit, non?
Non, c'est parfait. C'est super bon.
J'ai réussi à faire une petite croûte caramélisée d'abats, quoi.
J'ai pas encore goûté les bouts de poumon, mais le reste, pour le moment...
Est-ce que t'es déjà tombé sur un cube de gras ou pas?
Ouais, je suis occupé à voir un peu.
C'est pas très léger, hein. C'est quand même, voilà.
C'est super bon.
C'est bon? Bah, ouais. Je vais goûter aussi, alors.
Ouais. Alors, Thomas est occupé à piquer dedans. Il est hésitant.
Il y a des trop gros bouts. C'est dégueu.
Mais non, c'est super bon.
Moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est pas assez mixé. Il y a des trop gros bouts. Tu sens qu'il y a des bouts d'abats, toi, qui sont pas bien.
Ah oui, mais moi...
là, c'était un museau.
On rajoute, tu vois, si tu rajoutes une petite compote de pommes...
Mais oui, mais il le suggère. J'avais
c'est
pas... Ouais, il le suggère ouais, comme...
Moi, je veux bien l'assiette.
Alors, il y a deux façons de manger le Blutpens. C'est soit froid dans un pistolet avec de la moutarde, mais ça, je pense que c'est vraiment pour les mecs hardcore, quoi.
Cru, tu veux dire froid ou
quoi? Ouais, froid.
Ouais, non, moi, je préfère quand même cru.
Ah, c'est pas bon.
Moi, je trouve ça bon.
Et alors, chaud avec une petite compotée, ouais, une petite compote de pommes.
Mm.
Mais pour moi, c'est trop gros morceau d'abat. C'est
moi,
pas
non,
possible.
Moi, je trouve ça super bon, mais je dis un petit goût sucré en plus, ça serait...
Oh, non, c'est hard. Hein. c'est de la triperie, quoi. C'est, voilà.
Non, c'est bon.
Voilà, Est-ce que tu savais qu'il y avait une rue du Blutpens?
Non,
une impasse, quoi. La Blutpens Gang. Donc, l'impasse du Blutpens. Le Blutpens, donc, c'est ce gros boudin noir. Et au fait, c'est la rue de l'abricotier. Officiellement, c'est la rue de l'abricotier. Mais on l'appelle l'impasse du Blutpens. Parce qu'un jour, il y avait un charcutier, là, tout en haut de la rue, qui s'est disputé avec une cliente et qui a pris un boudin noir, une sphère de Blutpens et qu'il a lancé à la tête de sa cliente. Et la cliente l'a évité. Mais c'est une rue vraiment en pente. Et donc... l'espèce de grosse boule de boudin a dévalé toute la pente. Et donc, depuis, on l'appelle l'impasse du Blutpens. En plus, ce qui est marrant avec le Blutpens, c'est qu'il y a eu en 1996 une confrérie du Blutpens, un ordre du Blutpens, tu vois, pour défendre, pour promouvoir ce mets.
Je veux bien la rejoindre.
Mais le truc, c'est que la confrérie elle-même a disparu en 2013. Donc, quand tu as un truc qui n'a pas beaucoup de succès, que tu as une confrérie qui est là et qui disparaît également, au bout d'un moment, pourquoi s'entêter? Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas juste voué à disparaître?
Non,
est-ce que c'est pas
dis,
la sélection naturelle des plats?
Moi, je vous dis, les pistaches, allez chercher du Blutpens.
Ouais.
Allez chercher du Blutpens. Recréons la confrérie. Mangeons ça au moins une fois par mois.
Pour ma mine, 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 pour ma mine
Vous êtes toujours dans le Bruxelles Pistache Club, épisode spécial Les plaisirs de la table. Alors avant de poursuivre nos dégustations, nous allons faire un petit détour par l'école et l'enseignement des métiers de bouche. Et oui, il faut former la jeunesse pour les métiers de l'horeca. Et allons faire un petit détour à Genneval dans la célébrissime école de la Roseraie. Depuis 1964, notre école de la Roseraie forme l'élite des métiers de bouche en Belgique. Nos élèves sont destinés à travailler dans les plus beaux établissements horeca du pays. Nous avons su marier les techniques les plus raffinées de la haute gastronomie française avec les plats les plus populaires de notre belle Belgique. Je vous propose maintenant d'assister à un atelier théorique sur l'accord mets sauce. Attention, n'essayez pas cet exercice avec des premières années. Gaston ?
Ouais, monsieur.
Croque-monsieur ?
Ketchup !
Crevette rose ?
Cocktail !
Crevette grise ?
Mayonnaise !
Moule ?
Sauce moule ?
Cervela ?
Pickles ?
Biki ?
Sauce biki ?
Pita ?
Sauce pita ?
Bel canto ?
Samouraï !
Vol au vent ?
Sans sauce, monsieur.
Boulette ?
Sauce Dallas ?
Saucisse ?
Moutarde douce ?
Boudin noir ?
Moutarde ketchup ?
Boudin blanc ?
Moutarde de Dijon ?
Ouais, c'est bon ça, Gaston, ça c'est un bon gars.
Ah, merci, monsieur, merci. Les professeurs sont parfois très exigeants, mais c'est normal, c'est pour notre bien, c'est comme ça qu'on va devenir meilleur, qu'on va...
C'est quoi ça? C'est quoi ça, Jason? Une carbonade ou du canigou? Tu veux finir chez Lunch Garden, hein? C'est ça? Tu veux finir chez Lunch Garden? Tout le monde peut les réchauffer, ces grands fichtiques, et cette purée pur beurre, là, pff. Tu veux y aller? C'est ça, Jason?
C'est que comme ça qu'on peut atteindre l'excellence, oui, l'excellence.
Say you want it twice. You got to make the good choice. We're going to balling with the tender voice. You can save you from this world, as I would say. With a Margot picture, so they tell you happy.
Voilà Mehdi, c'est déjà l'heure du moment de la famille pistache, wow, la famille du pistache préféré. Club. C'est le moment où nous faisons connaissance avec nos petites pistaches de Twitter, hein, la famille du pistache club. Et aujourd'hui, je te propose de faire la connaissance de Jean-Yves.
Jean-Yves, mais qui es-tu, Jean-Yves?
Ben Jean-Yves, c'est un jogger, c'est un marathonien de première classe, mon gars. Il a je sais pas combien c'est de marathons à son actif, si. Et surtout, il fait partie du collectif Be Run, non peut-être. Donc ce sont des joggeurs bruxellois. Non peut-être, bah
c'est
ouais
pas
si.
Possible.
Eh ben, ce sont des joggeurs, des coureurs bruxellois, vraiment, ils sont à fond dans le running et ils font ça super bien et ils tiennent un blog.
T'aurais couru une fois avec eux?
Non, parce que ces mecs-là, je te jure, voilà. Ouais, tu ne cours pas avec eux, tu les regardes courir, tu les vois passer de temps en temps, mais tu ne peux pas courir avec eux.
Okay,
voilà,
okay.
Pour le commun des mortels, ce n'est pas possible. Donc on va faire la connaissance de Jean-Yves et on est allé donc retrouver son tout premier message. Il en a quand même plus de 1140.
Ouh, ils sont actifs, hein.
Ouais, tout à fait. Et son tout premier message, ben, c'était justement un lien vers un article de son blog, du blog du collectif, en fait, hein. Et donc, c'était un tweet avec une photo de la Tour Eiffel qui dit « On part courir en province, à Paris ». Mais oui, ils sont vraiment excellents.
C'est bien,
parce que pour eux, tu vois, Paris c'est la province, puisque Bruxelles c'est la capitale de l'Europe. Ils se sont dit, on sort de la capitale, on va en province,
et
à Paris.
Ils ont raison.
Et donc ils ont été courir là-bas. Et vraiment,
est-ce
c'est un
qu'ils ont été courir là-bas ou jusque là-bas?
Non, pas chez. Non, franchement, non. Ils courent de très très longues distances, mais peut-être pas jusqu'à Paris. Mais
c'est
par contre,
peut-être un défi qu'on pourrait leur lancer.
Ouais, mais là ils sont dans un défi pour 2020. Ils essayent de faire des chemins de grande randonnée en courant. Dans la région bruxelloise, il y a plusieurs chemins,
sûr,
des GR qui passent
comme
ça dans Bruxelles. Et eux, ils courent là-dessus, ils font des photos.
C'est
aussi
chouette,
des street art, des graffitis, tout ça qu'ils voient. Quand ils courent, ils s'arrêtent, ils font parfois des photos, etc. C'est vraiment chouette, c'est un chouette blog.
Ça donne envie de suivre.
Ouais, vraiment, vraiment. Et le blog s'appelle berun.com.
Berun.com.
Et alors,
nom, peut-être.
Et Jean-Yves, il a un petit surnom.
Qu'est-ce que c'est?
Il s'appelle Super Cracotte dans leur team. C'est magnifique.
C'est chouette.
Voilà, parce qu'il avait, en terminant un marathon, sa copine lui a dit bravo, c'est très bien, ma cracotte, c'est super. Et voilà, Super Cracotte. Donc Jean-Yves, déjà continue de
courir.
Cours encore, mon gars.
coup.
Non, non, il a des objectifs vraiment balèzes de X nombre de marathons réussis. Il en a déjà réussi vraiment pas mal, donc bravo à lui.
Chapeau, chapeau.
Continuez à partager votre passion de la course à pied sur Birun, le blog. À la prochaine, à bientôt.
Ciao. On a sonné, je pense que c'est les frites.
Les frites sont là.
Les frites et la fricadelle. Les frites arrivent, les frites arrivent et la fricadelle arrive. Donc je vous explique, Thomas court, il cherche du liquide dans sa poche, il a du liquide pour payer le livreur. Ah merde, on est dans la merde. T'as pas payé avec l'application aussi?
Voilà sur les frites sont arrivées. Magnifique les French fries. Non, pas du tout, les frites belges. Je veux pas énerver les gens.
Ouais,
elles sont bien encore, hein, c'est bien. On n'a pas pu aller jusqu'aux fricottes, mais on a fait livrer ça à vélo, et donc merci beaucoup. Les frites. Alors, Mehdi, Tank, avec les frites, qu'est-ce que tu prends? Tu prends de la
ketchup.
Ketchup, bah ouais, est-ce que tu
toujours
sais
sauce ketchup.
D'où vient le ketchup?
Non, vraiment pas. États-Unis?
Non, alors évidemment, tout le monde pense à Heinz, ouais. Tomato ketchup, mais le ketchup existait déjà bien avant, et en fait, ça vient de Chine. À la base,
mais
c'est une sauce chinoise.
C'est pas vrai.
Si, c'est une sauce qui, à la base, était faite de poissons fermentés, qu'on appelait ketsiap. Ketsiap. Quand tu le dis vite, ketsiap, ça fait ketchup. Et donc, c'était destiné à relever le goût des aliments. Et donc, le ketchup a été inventé en Chine il y a bien longtemps. Elle a été importée par l'Empire britannique, hein, donc, ouais. Par des colons anglais. Et la sauce a rapidement été adaptée afin d'y intégrer la tomate. Et donc, ben voilà, donc au départ, le ketchup vient de Chine et puis c'est Heinz qui a popularisé le tomato ketchup.
Bon, les gars, ça c'est une anecdote à bien retenir le jour où vous mangez des frites avec vos amis, quoi.
Au départ, le ketchup est chinois. Le ketchup.
Oui. Ketchup. Ketchup.
Ketchup.
Donc
ketchup.
Bonjour à nos amis chinois qui écoutent le Bruxelles Pistache.
Ben ouais, en ce moment, ils n'ont pas grand-chose à faire d'autre puisqu'ils sont calfeutrés chez eux.
Ah, ou ceux d'origine chinoise.
Voilà. Mais donc, ce ne sont pas les Américains qui l'ont inventé, mais bien les Chinois au tout départ. Les Américains, ils ont surtout ajouté de la tomate. Des Américains, des Chinois, des Anglais. Mais est-ce que tu savais aussi qu'il y a un ketchup 100% bruxellois?
Mais non.
Et si,
ils
c'est
l'ont
le
fait.
Ketchup.
Ah,
le
ketchup.
Quête. Hein, quête, comme un quête, comme un gamin,
ouais,
à Bruxelles.
Yes. Un quête, c'est un petit garçon.
Un petit garçon à Bruxelles, on appelle voilà. Ça un quête. Et donc ici, bah justement, c'est un quête de Bruxelles qui, en 2010, s'est dit « Le ketchup, c'est pas mauvais, mais je sens qu'il y a moyen de faire encore mieux en ajoutant un meilleur goût de tomate. » Et donc, il a
créé
développé
le premier...
un ketchup 100%...
Premier ketchup belge,
ouais. Il a développé le premier ketchup belge. Et ça a été vraiment un grand succès parce que le goût est vraiment super bon.
C'est
et donc
vrai.
Je te propose de goûter ça. J'en ai mis un peu là dans l'assiette.
Ah oui,
c'est donc le ketchup.
Une assiette avec du ketchup.
Du ketchup. Ketchup. Ouais, magnifique. Le ketchup, vraiment un bon goût de tomate. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'adore.
Il est super bon.
Ouais, mais il est vraiment bon. Je trouve qu'il travaille vraiment bien. Ils ont plusieurs sauces comme ça,
tomate,
très sympa. Et c'est eux également qui ont fait la sauce Dallas.
Plac. Fais-moi un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît.
Avec quelle sauce?
Je sais pas moi, sauce Dallas, même la sauce ça part. Et trois boulettes avec. Omar, la sauce ça part ou sur les frites?
Ils ont créé la sauce Dallas.
Ils ont créé la sauce
du
Dallas
film
qui
n'existe.
Ouais, mais en fait, au moment du film, la sauce n'existait pas.
Ah oui.
C'est un peu de l'improvisation de l'acteur.
C'est ça.
Et donc, quelques années après, ils ont créé la sauce Dallas.
Alors,
toi, elle est un peu.
Un peu Dallas.
Un peu Dallas, mais Dallas, Dallas hot.
Je suis content de découvrir ça.
Mais franchement, ils ont fait plein de super chouettes sauces, et notamment une sauce...
Ah, pique.
Ouais. Et tu sais qu'ils ont aussi fait la sauce la 1620.
La quoi?
La 1620, en fait, c'est le nom de l'émission de David Antoine sur Radio Contact,
ah oui,
à l'époque.
Oui, 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 oui.
Et tu sais ce qu'ils ont fait?
Non.
Ils ont envoyé un cornet de frites dans l'espace.
Mais oui, j'ai vu ça.
Et ben pour du vrai, hein.
Je sais.
Avec
c'est
un ballon
ça.
Comme ça. Ils ont accroché ça, un paquet de frites à un ballon, et ils ont envoyé le ballon à 37 000 mètres d'altitude dans l'espace.
C'est un exploit, ça.
Franchement,
même.
Ça, c'est un super exploit. Et donc, ils ont créé la sauce pour se souvenir de ce record extraordinaire d'envoyer un paquet de frites dans l'espace. C'est quand même pas une meule de
beau.
Gouda
non.
Ou
une
baguette de pain qu'on enverrait dans l'espace.
Il n'y a que nous pour faire ça.
Il n'y a vraiment que nous. We'll be right back.
l'écume, à la fois si proche et si loin, Braine l'écume, le dom-tom de la Belgique.
Braine l'écume, c'est le dom-tom de la Belgique.
Ouais.
C'est vraiment ça. Mais c'est pas le dom-tom...
paradisiaque.
Paradisiaque, si. C'est un peu paradisiaque, mais au pays du froid.
Une petite île qui se trouve entre l'Islande et le Groenland, qui fait vraiment très très froid. Et la Belgique possède ce petit territoire et il s'y passe plein de choses. Pas toujours passionnantes, mais
J'aime bien.
Et tu voulais nous parler de Braine l'écume cette semaine?
La thématique, c'est la nourriture aujourd'hui,
c'est la
cuisine. Mais Braine l'écume, on va en parler. Braine l'écume est un pays de carnivores.
Ah ouais.
Eh oui. Tu sais que le climat est ce qu'il est. Il est extrêmement très difficile de faire pousser des légumes.
Ah ouais, ça c'est clair.
Mais qu'est-ce qu'ils font là ? On en trouve, hein, des légumes ou des fruits au supermarché. Un petit exemple, c'est 4 euros la petite courgette. 1 euro la tomate. 2 euros l'orange.
Ah, ils font tout venir de métropole en fait.
Alors il est plus important, plus intéressant en tout cas, de partir de ce qui pêche et ce qui chasse. Hein. Donc,
Non. Du coup, il n'y a pas grand-chose comme légumes.
Non, il n'y a rien. Mais je vais te parler un peu de la cuisine traditionnelle de Braine l'écume.
Ah, ça, j'adore ça.
Alors, elle, donc, comme je le disais, est souvent composée d'aliments crus, en provenance de la pêche et de la chasse.
Oui.
On peut parfois cuisiner des bouillons d'ours polaire.
Ben non.
Ou de rennes, si.
Il faut déjà les choper, hein. Faut déjà arriver à les
chasser. Ils en attrapent.
Magnifique.
Et en fonction de ce qu'on offre, ce qu'offre le milieu de vie, la banquise ou la forêt,
Pour la forêt, pas grand-chose, hein. C'est 2-3 cailloux,
effectivement, un vieux sapin. Il n'y a pas d'arbres. Il y a des arbustes. Et donc on peut retrouver des petites baies. Mais je vais te parler d'un des plats spécial de Braine l'écume. C'est vraiment le plat traditionnel. On mange tout au long de l'année.
Ouais, c'est la carte de visite, vraiment. Voilà, le cliché pour touristes, presque.
Voilà. Quand on va à Braine l'écume, on mange automatiquement du vol de pingouin servi avec un bouchon de princesse.
Oula. Alors là, il va falloir un peu d'explication. Vol de pingouin. Ouais,
cette préparation consiste à enfouir la chair du pingouin dans le sol pendant environ 6 à 12 semaines.
C'est un peu comme les chicons, il faut les couvrir de terre.
De glace.
De glace, mais non. Tu congèles ton pingouin, quoi.
Ouais, pendant 6 à 12 semaines, donc il faut être patient. Hein.
Ah ouais.
Ensuite, selon
la saison... Il ne faut pas avoir une petite faim comme ça, quoi. Ça se prépare, c'est un plat traditionnel.
C'est un plat traditionnel, okay. Ça se prépare. Comme tous les plats qui mijotent, ça se prépare.
Ouais, mais là, 12 semaines, quand on dit, ok.
12 semaines. Puis, on le fait sécher dans un séchoir, ou s'il fait beau... À l'air libre.
Ouais, il fait beau. Il y a deux jours.
Pendant quelques mois de séchage.
Après, tu as quoi? Alors, tu as une espèce de saucisson de pingouin?
Alors, après, on le découpe et on sert ça en petits cubes. Pourquoi le bouchon de princesse? Parce qu'il faut savoir que l'odeur de ce mets reste insoutenable, même s'il est très bon.
Du pingouin, ouais, ça pue. Hein, ça.
Et donc, on utilise un pince-nez ou un bouchon nasal pour déguster ce bon pingouin.
Pourquoi de princesse?
Parce que tu sais qu'ici, chez nous, en Belgique, on a les bouchers à la reine.
Du
vol au vent avec les bouchers
bouchons,
à la reine.
Excellent.
Et donc, c'est du vol de pingouin, vol au pingouin servi avec un bouchon de princesse.
Excellent.
Il y a toujours le lien entre la Belgique, hein, pas l'oublier. Hein.
On n'oublie pas la métropole. Magnifique. Et donc, ça se sert comme ça avec un bouchon comme sur ça, le nez. Donc, au resto, tu vas au resto, on te file un pince-nez.
On te file automatiquement, on te le met à côté de toi, tu sais que tu vas manger ça. Et celui d'à côté le sent aussi.
Ah ouais, mais du coup, c'est ça. Du coup, s'il y en a un à table qui prend du vol au pingouin et que les 7 autres n'en prennent pas, les 7 autres sont marrons, quoi. Ils doivent aussi s'équiper par solidarité de pince-nez, quoi.
Après, c'est surtout les touristes qui ont besoin d'un pince-nez. Hein.
Les vrais, ils aiment ça, quoi. Je veux dire, c'est le pingouin faisandé et fermenté.
C'est
un peu une deuxième odeur pour
eux. Voilà, c'est clair.
Ok.
Alors, on peut aussi trouver des quiches au baie.
Des quiches au baie.
Ouais, c'est agréable, c'est sympa aussi. Mmh. Et il y a aussi un plat, par contre, là, qui est venu pas de Belgique, mais plutôt du Groenland, qui s'appelle le kiviak.
Le kiviak. Ouais. C'est un truc qui existe vraiment.
Ouais, c'est costaud de ce que j'ai vu. Hein.
Avec du phoque,
mais ils remplissent un phoque d'oiseaux. Ah, si, de tous les oiseaux qu'ils trouvent. Et il referme le phoque et il laisse macérer ça pendant tout un temps. Alors tu peux pas faire avec n'importe quel oiseau. Est-ce qu'il y en a qui sont morts ou est-ce qu'ils ont choisi des oiseaux qui macèrent pas correctement et donc ils ont eu le botulisme
qui vit bien que...
Voilà, okay, ça c'était le petit retour de la cuisine
la
traditionnelle
de Brenne
l'écume. L'écume,
ben ça donne envie d'y aller, hein, toujours une fois de plus.
Mais pas d'y manger.
Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar. Ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar. Ninguém vai esta noite se embriagar.
Et pendant que Mehdi continue à
déguster les frites,
déguster ses petites frites, je reviens au sérieux. Je reviens à la vie, je reviens aux questions existentielles et je reviens donc à Bruxelles rationnelle. Bruxelles rationnelle, c'est la rubrique dans laquelle on pose des choix sérieux, dans laquelle on s'interroge sur nos pratiques et dans laquelle on adapte notre comportement pour respecter cette belle planète. Viande maturée, Black Angus fumé, ribs de porc caramélisés. Les restaurants carnivores ont le vent en poupe à Bruxelles, comme dans toutes les capitales d'Occident. Seulement voilà, on ne peut pas ignorer éternellement les constats scientifiques. C'est un fait, chaque année, on produit 323 millions de tonnes de viande. Et l'impact est majeur sur le réchauffement, la déforestation et la consommation d'eau sur notre belle planète. En 2020, la région de Bruxelles-Capitale réagit. À coup de primes et de subventions, elle incite les restaurateurs spécialisés dans les plats de viande à opérer une reconversion drastique. Et pour remplacer la viande, les idées ne manquent pas bien sûr, hein. Certains se lancent dans le 100% végétarien, le vegan, la slow food, voire même les plats à base de fruits et de légumes fermentés. Mais la région bruxelloise va bien plus loin que ça, puisqu'elle lance l'initiative Top Chef Parc à conteneurs. L'idée est simple et bonne, hein, comme toujours avec Bruxelles. Tous les restaurateurs qui accepteront de dire stop aux plats carnés bénéficieront d'un accès prioritaire au parc à conteneurs de la région pour pouvoir y puiser des ressources nouvelles en vue d'agrémenter leur menu. Et j'ai avec moi justement ici, dans cette émission, un chef qui se lance dans cette grande aventure de Top Chef Bruxelles Rationnel. Alors bonjour Jean-Claude.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes chef, rappelez-moi peut-être le nom de votre établissement à Bruxelles.
La gastrosophie.
La gastrosophie, pas mal. Donc vous savez que la région va vous donner des aides et des primes pour faire une reconversion de votre restaurant. Fini les plats de viande, maintenant vous pourrez choisir dans toutes les ressources du parc à conteneurs. Mon cher Jean-Claude, je vais vous proposer plusieurs épreuves. Première épreuve, attention, est-ce que vous pouvez me concocter une entrée avec des copeaux de bois. Générique. Alors, mon cher Jean-Claude, que pouvez-vous me proposer ?
Alors, que puis-je vous proposer ? C'est très simple, je dirais que je fais infuser les copeaux de bois dans du lait. Ensuite, quand le lait a bien pris ce goût, j'en fais une glace délicieuse. Une glace au copeaux de bois.
Donc, l'épreuve... Donc, c'est un hors-sujet total, Jean-Claude. Oh, vous perdez cette première épreuve parce qu'on vous demandait une entrée.
Donc,
malheureusement, vous êtes tout à fait à côté.
Mais on peut manger de la glace en entrée.
Non, pas du tout. Même à Bruxelles, c'est pas possible.
On recommence.
Alors, deuxième épreuve, Jean-Claude. Deuxième épreuve, attention. Sublimez-moi l'huile de vidange d'un moteur de voiture dans un dessert pour enfants. Générique. Alors Jean-Claude, vous êtes parti sur quoi ?
Eh bien, qu'est-ce que, mon ami Thomas, qu'est-ce que les enfants aiment manger ?
Des bonbons ?
Des glaces.
Des glaces, c'est vrai.
Oui. Alors, rien de plus simple que faire des glaçons à l'huile.
Vous allez me sortir des glaces à toutes les épreuves,
c'est
Jean-Claude.
C'est un peu la thématique de mon restaurant, je l'avoue.
Ok, le restaurant glacier, ok.
Je suis un glaçonomie.
Ah, oh, bah, magnifique. Et donc, c'était quoi votre dessert à base d'huile de moteur?
C'est donc des bâtons glacés.
À l'huile.
À l'huile.
Merci, Jean-Claude.
Alors, c'est très compliqué à faire, Thomas. Oui. Ne rigolez pas, c'est très compliqué à faire. L'huile ne gèle pas comme l'eau.
Ah non, il faut le froid ultime, quoi. Il faut voilà. De l'azote liquide.
Voilà.
Vous êtes équipé.
Allez, à Braine-l'Écume.
Allez, à Braine-l'Écume, bravo, bravo. Attention, troisième épreuve. Mon cher Jean-Claude, pourriez-vous me revisiter un plat de viande avec une demi-brique de gravat? Générique, réflexion. Ok, alors Jean-Claude, que pouvez-vous me proposer comme plat de viande à base de briques?
Alors, c'est simple, c'est très simple. Comme on l'a dit là tantôt, on mange beaucoup trop de viande. Donc, les pierres me semblent être assez consistantes pour être bien nourries. Je les mixe comme de la viande hachée. Si, j'ai du très bon matériel, très bon.
Là.
J'en fais de la poudre, de la farine de pierre.
Et une glace sûr. Vous allez faire une glace
non,
ou pas
non,
je
ne
sais pas,
hein,
moi c'est
sûr.
Par hasard que je pose la question.
À cette farine de pierre, je mélange un œuf.
Et vous faites du pain de briques.
Je rajoute.
Là, on sent que vous ne savez pas où vous allez dans votre recette.
Excusez-moi, chef.
Je
l'ai déjà préparé, je rajoute des champignons, je rajoute le jaune d'œuf, je rajoute du riz, j'en fais des boulettes. Je les mets à la poêle et
ça
nous avons des pierres qui roulent dans ma samousse. C'est mon plat phare au restaurant.
Oh. C'est pas glacé. Vous pouvez les glacer.
On peut les glacer, elles se mangent avec une poule.
Chéri doudoué, qui n'éranda mitana moi mokeo. Chéri nangaye. Yo nanga mo kai nanga mwa flebuku Zera ya masua koka nama koka nama Nanya mele.
Vous êtes toujours dans le Bruxelles Pistache Club, le seul podcast animé par deux voisins, cousins, copains de
Skarbek,
Bruxelles, Europe, Belgique.
Oui.
Alors justement, parlons de la Belgique, puisque aujourd'hui, Mehdi, je te propose d'assister et même de participer à la grande coupe de Belgique des fromages en C.
C'est cool, ça.
Ouais, c'est cool.
Je viens de finir le paquet de frites, ça tombe super bien.
C'était du Bloom Punch paquet de frites, fricandelle, magnifique.
C'est bon, c'est bon.
Donc, les fromages qui commencent par la lettre C sont qualifiés pour cette grande coupe de Belgique. Alors, je vais t'amener les fromages et on va un petit peu débattre pour voir qui sera le grand vainqueur de cette coupe de Belgique des fromages en C.
C'est parfait.
En tant que fromage organisateur, le Etekase, le fromage de Bruxelles, a pu participer à cette compétition, puisqu'il organisait chez lui, c'est bien normal. Même s'il ne commence pas par un C.
On doit le goûter.
Est-ce que tu connais ce fromage de Bruxelles?
Non, du tout.
Donc c'est le fromage dur, pas forcément parce que sa croûte est dure, mais parce que sa saveur et son odeur sont assez prononcées.
Et donc, je dois le manger en dernier, celui-là, alors.
Non, mais non, mais écoute, il va participer à cette Coupe de Belgique, comme tous les autres fromages
okay,
présents.
C'est une très bonne idée.
Et on en trouve des traces écrites de ce fromage de Bruxelles depuis le 15e siècle. Donc quand même, c'est une belle tradition. Le Etekase, c'est un fromage au lait cru, sans matière grasse, particulièrement salé. Il y a plus ou moins 6% de sel dedans. Si tu veux, tu peux dégeler ton trottoir avec vraiment. C'est très, très salé. Mais peut-être qu'il a quand même une chance pour gagner cette Coupe de Belgique des fromages en C. Est-ce que je vais chercher les demi-finalistes?
Je suis prêt, là. Les frites sont terminées.
Voilà, c'est parti.
Les
je vais chercher les demi-finalistes.
Je suis prêt. Je fais de la place devant moi. J'enlève les pistaches. Alors, merci, Thomas vient de m'amener
une belle assiette, Mehdi. C'est la première demi-finale. Dans cette demi-finale, tu verras qu'il n'y a pas le fromage de Bruxelles. C'est donc l'autre demi-finale.
Ah, oui.
Et je vais te demander de sélectionner le meilleur de ces trois fromages.
Ils sont déjà bons. Hein.
C'est que du fromage qui commence par la lettre C. Alors, nous avons le chêne d'argent qui nous vient du Limbourg, de Hallen. Donc, c'est
d'une chaîne d'argent, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, il s'appelle le chêne d'argent. Il vient du Limbourg, c'est un fromage de chèvre. À côté, nous avons peut-être un des favoris de cette compétition, le fromage de Chimay. Attention, un Chimay classique, gros gros challenger pour ce concours. Et le troisième, c'est le Golden Carolus, qui est un fromage fait par une fromagerie de Malines.
Ok, on a un peu pas mal de représentants.
Ah, on a un peu toute la Belgique. J'avais dit, c'était la Coupe de Belgique des fromages qui commence par la lettre C. Alors, Mehdi, est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur ces trois fromages?
C'est mon préféré.
C'est pas vrai. Finaliste, ah, le Chimay battu. Ouh là là, des favoris vient de quitter le tournoi.
Je l'ai dit direct en live.
Ah ouais, là, le Golden Carolus, qui est un fromage qui peut s'accompagner de la bière du Golden Carolus, d'ailleurs, que je n'ai pas ici aujourd'hui.
Un délice.
Mais, non, attention, Mehdi, attends, ne bouffe pas toute la meule non plus, quoi. C'est la demi-finale, attention. Est-ce que je t'amène les autres? Donc, tu es sûr de ton choix, hein, pas de regret.
Pas de regret, un délice.
Le Golden Carolus passe haut la main.
J'en ai repris un bout.
Ouais, non, mais ok, mais si je ne les retire pas, ils bouffent tout, c'est. Attention, stop. Alors, attention, deuxième demi-finale, je t'amène la deuxième assiette.
Je garde pas.
Alors, Mehdi, voici l'assiette de la deuxième demi-finale. Nous avons trois candidats fromages qui commencent par la lettre C. Nous avons tout d'abord le Koberger de Furnes, donc dans le très très lointain, la Flandre occidentale.
Près de la mer, ça.
Tout près de la mer, oui. Le fromage donc qui s'appelle le Koberger. Voici, alors à côté tu as le fromage de Nivelles, le petit cabri de Nivelles.
J'aime bien Nivelles.
Petit cabri au fromage de chèvre. Alors sachant que tu n'aimes pas les fromages de chèvre maintenant, j'ai un petit peu peur qu'ils partent avec un désavantage. Mais
ils me tendent bien là. Et puis...
Et alors le troisième, et là le head case, peut-être le mastodonte de la compétition. Attention, Mehdi, quand tu l'ouvres, tu fais gaffe. Hein. Reprends ton bouchon princesse, parce que là...
Je vais commencer par le Koberger.
Donc, le Koberger. Ouais. Koberger qui nous vient de Furnes. Qu'est-ce que ça donne, Mehdi?
Il y a mieux. C'est bon, mais très léger. Ça manque un peu de...
Un peu de force. Ouais. Ah, c'est les polders, ça, c'est, voilà, c'est un peu plat. Plat comme la côte.
Voilà.
Ok.
Alors, j'attaque avec nos amis de Nivelles.
Ouh, d'ailleurs, le petit cabri de Nivelles. Là, sur le petit cabri de Nivelles, le petit fromage de Nivelles, attention, la Mehdi.
Je me resserre.
Il est très bon, apparemment.
Ouais.
Ok, alors maintenant, nous allons goûter le fromage de Bruxelles. Et là, je demande le plus grand silence à tous. Religieusement, Mehdi va ouvrir... Ce petit paquet, regardez-moi, si ça chante pas déjà, j'ai l'impression. ça hume le bon. Ça sent les marolles, ça.
Oh là là. L'emballage.
Alors, olfactivement, est-ce que c'est puissant?
Thomas,
oui.
Si tu le sens pas de là où tu es, c'est que c'est pas encore assez puissant. Mais... Oh là là.
Vas-y, goûte.
J'hésite, hein. J'hésite.
Tape dedans.
Je crois que ma femme va plus me parler pendant une semaine. Je vais arrêter de travailler là.
Vas-y, Mehdi, come on.
Franchement, j'ai.
Le fromage de Bruxelles, Mehdi.
J'hésite vraiment.
Ah, t'hésites à quoi?
À manger ça.
Comment ça, Mehdi? Comment oses-tu?
Pourtant, c'est rare que j'hésite de manger quelque chose.
Ah ouais, il a foncé sur le Bloom Punch. Et là, il recule quand même un peu. C'est pour les palais avertis. On peut déjà le dire, ça. Ouais, ne mangez pas ça avec vos enfants. Hein. Ce sont vraiment pour les palais avertis.
C'est la texture aussi qui a l'air...
Ah, mais tout. Même le tout.
Ouais.
Et the case.
J'y vais. Et the case.
Et the case, allez. Première impression.
C'est bon.
Ça décoiffe ou pas?
Ça décoiffe.
Ça décoiffe. Est-ce qu'on a un vainqueur pour cette deuxième demi-finale, Mehdi?
Alors, visuellement... C'est pas le vainqueur.
Non, mais dans...
Mais au niveau du goût, c'est de la bombe.
Est-ce que le fromage de Bruxelles passe en finale?
Il passe en finale.
Oh, extraordinaire. Il passe en finale. Mesdames et messieurs, finaliste, le fromage de Bruxelles face...
Il le mérite.
C'est beau. Et toi aussi, tu mets... Franchement, bravo, Mehdi, c'est beau ce que vous faites. On peut dire que t'as donné de ta personne.
Non, mais il est bon, hein. On dirait pas comme ça, mais il est bon. Il est effectivement très salé, comme tu le disais là tantôt. Mais ouf, par contre, ça sent fort. Je vais boire une petite gorgée de bière. Bon.
Tu veux te chercher l'autre finaliste.
Ça n'enlèvera pas le nez, l'odeur, ouais.
Nous abordons à présent la grande finale de cette Coupe de Belgique du fromage par C. La Coupe de Belgique des fromages qui commence par la lettre C. Attention, en finale, nous avons le Gouden, le Gouden Carolus, ah, oui, qui vient de Malines, face à son cousin du Brabant, que dis-je, au grand frère bruxellois, le Hettekees, le fromage de Bruxelles.
Thomas, je vais mettre du Hettekees sur du Carolus.
Oh mon Dieu, mais c'est la grande réconciliation.
Oui.
Mais
c'est ici, fantastique. Ici, nous avons deux finalistes. Ils méritent d'être mangés ensemble. Ensemble, ce sera le mot. Ensemble, cette finale.
Tu peux faire fuir des gens. Une espèce de...
Alors, le vainqueur reste notre ami le Bruxellois.
Ouais, le grand vainqueur, ouais, ouais.
Et je suis neutre. C'est pas parce qu'il est Bruxellois, je suis neutre. Je dis, vive le Hettekees. Vive Bruxelles. Vive nous. Vive le Bruxelles Pistache Club. Et dorénavant... Pour cette émission, nous allons nous appeler le Hettekees Pistache Club.
Magnifique, Mehdi, bravo. C'était la Coupe de Belgique des fromages en C. Bravo, Mehdi, tu as été un juge extraordinaire. Toujours courageux, toujours de l'avant. Les odeurs ne t'ont pas arrêté et ça, c'est beau.
J'avais refermé religieusement.
That I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they make
it. Alors Mehdi, toujours vivant après toutes
toujours
ces expériences.
Toujours vivant, toujours vivant. Et je le redis, merci Thomas de m'avoir fait découvrir ce fromage. D'ailleurs, je vais le reprendre avec moi.
Ah ouais, 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 parce que moi je peux pas le garder dans le frigo, c'est pas possible, on va mourir.
Alors il faut des gants pour le transporter parce que...
Il faut un caisson sous vide. Alors Mehdi, c'est l'heure du Bruxellarium.
Ah.
Ouh, la machine à voyager dans le temps.
C'est parti.
Et aujourd'hui, je t'emmène dans une pharmacie en 1912 pour l'invention des prothèses de hanche.
Ah, très bien.
Non, pas du tout. Il est beaucoup trop gentil, même quand le sujet est pourri. Il dit « Ah, oh, c'est intéressant, prothèses de hanche. » Non, c'est pas ça, Mehdi.
C'est quoi?
On va parler chocolat. On va parler praline, on va parler ballotin. Et ouais. Alors, pourquoi la Belgique est spécialisée en chocolat? Pourquoi?
Pour ses magnifiques cacaotiers dans le parc de Bruxelles.
Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est pour ses liens chaleureux avec les pays producteurs de fèves de cacao. Parce que, tu sais peut-être que les échanges amicaux entre la Belgique et le continent africain ne datent pas d'hier.
Hein? Amico, amico.
Ah oui, amico, hein, Mehdi, comme le disait notre bon Léopold II. Comparé au bonheur procuré par une barre chocolatée zéro de Meurice, qu'est-ce que quelques mains coupées, finalement? C'est ce que disait Léopold II.
Léopold II, Léopold II.
Voilà, voilà, et donc, qu'on avait beaucoup de matières premières à disposition. Et deux, c'est aussi grâce à un savoir-faire développé depuis le début du XXe siècle par des centaines de petits artisans chocolatiers, travailleurs et inventifs. Et parmi ceux-ci, Jean Neuhaus Junior, l'inventeur de la praline. Son grand-père était un Suisse, Jean Neuhaus, et il avait fondé une pharmacie dans la Galerie de la Reine. La Galerie Royale Saint-Hubert et la Galerie de la Reine, c'est magnifique. Et là-dedans, il y a une pharmacie en 1857 qui est rachetée par Jean Neuhaus. Et il faut savoir qu'il vendait au départ des confiseries pharmaceutiques, des bonbons contre la toux, de la réglisse contre les maux d'estomac, des guimauves, mais toujours dans un but de soigner les gens à l'époque. Hein. Et donc, c'est son petit-fils, Jean Neuhaus Junior, qui allait inventer la praline en fourrant ses chocolats avec une petite crème, ou en tout cas avec une délicatesse à l'intérieur du chocolat.
Excellent.
Et 3 ans plus tard, son épouse, Louise Agostini, invente une nouvelle façon plus raffinée d'emballer et de vendre les pralines, le...
ballotin.
Le ballotin, c'est la naissance du ballotin. Le but de ce dernier étant de ne pas endommager les pralines lors du transport.
Quoi. Très bonne idée, Agostini.
Mais tout ça, en fait, ne tient qu'au fait qu'au départ, pour masquer le goût des médicaments, le père Neuhaus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du chocolat dessus.
C'était malin.
Je me dis que peut-être il avait eu d'autres idées avant pour masquer le goût. Et qu'on est passé tout près d'autres spécialités belges.
Hein. Eh oui.
Et en 1912, quand il a inventé cette praline, il aurait très bien pu inventer autre chose. Et je te propose d'aller faire un petit tour et d'appuyer sur le bouton du Bruxellarium.
Ouh, c'est parti!
Bonjour monsieur!
Bonjour, bonjour!
Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose contre les rages de dents? Parce que là, j'ai une molaire qui me tiraille depuis 2 semaines, je n'en peux plus.
Alors, j'ai une petite pilule à base de menthe parfaite.
Oh, super. Oh, ça va encore être un goût dégoûtant.
Non,
vous
non,
connaissez,
non,
vous,
non,
les pharmaciens, non, non, c'est toujours dégoûtant, vos médicaments, là.
Pas chez moi, monsieur, pas chez moi. Je l'enrobe d'un saucisson d'Ardennes séché spécialement dans les caves de Bastogne.
Bon, ça, c'est original, ça. C'est comment, votre nom?
Nose, retenez bien ça.
Nose. Bah oui, c'est pas mal. Peut-être qu'un jour, finalement, pour s'excuser, on offrira des jambons farcis.
Peut-être. J'en suis sûr.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Comment allez-vous?
Bah, ça va bien, mais le petit a une rougeur, là. Mon petit a une rougeur sur l'avant-bras. Vous n'auriez pas une pommade?
Bien sûr.
Non, mais il est un peu fragile du nez. Il faut pas quelque chose qui sente trop mauvais. Vous n'auriez pas une pommade?
J'ai justement une pommade faite à base de bière bruxelloise, alors de la crique, au
de
goût
la crique.
De la cerise.
C'est original, ça. Comment c'est votre nom?
Neos, retenez bien ce nom.
Peut-être qu'un jour, on offrira à son amoureuse de la crique?
En pommade.
En pommade.
Bonjour, monsieur.
Alors voilà, j'ai un petit problème. Depuis quelques jours, je n'arrête pas de vomir après les repas. Je ne sais pas ce que j'ai, je n'arrive pas à digérer correctement. Et j'ai la nausée, je vomis, et je revomis souvent.
Essayez de pas vomir ici.
Je fais ce que je peux, mais vous n'auriez pas un petit remède pour moi?
J'ai justement ce qu'il vous faut.
Ah.
Un sirop onctueux.
Ouais, mais ça va encore être dégoûtant. Moi, je vous connais, vous, les pharmaciens. C'est toujours des trucs à base de foie de morue. Ça va être dégueulasse,
non,
je suis sûr.
Non. C'est un sirop au goût fricadelle.
Au goût fricadelle?
Oui, monsieur.
Un sirop? Mais enfin, c'est original, ça. Comment vous appelez encore?
Nose. Retenez bien ce nom.
Ah ouais, un sirop fricadelle. Alors, peut-être qu'un jour, pour faire plaisir à sa belle-mère, on offrira des fricadelles. Voilà, c'était l'histoire de l'invention de la praline. Et vous savez peut-être qu'il y a maintenant à Bruxelles une rue de la praline. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une rue du Bloempunch. Il y a également une rue de la praline, il y a une rue du Chicon. Et on rappellera qu'il n'y a que 4% des rues à Bruxelles qui portent le nom d'une femme. Pourtant, on a des tonnes de rues avec des noms de choux-fleurs, de fromages. Et voilà, et donc c'est le moment de penser, d'avoir une petite pensée quand même pour ces 4%.
Donc si vous nous entendez, hein, donc les communes, c'est pas facile de changer les noms, mais allez-y, mettez-nous un nom de femme, 2 noms de femme, 3 noms
plus,
de femme.
Plus, hein, mais oui, plus, parce qu'il y a 25% des rues qui portent le nom d'un homme à Bruxelles et seulement 4% de femmes. Et quand on sait qu'on a des rues de la praline, des rues du Chicon et des rues du Bloempunch, je me dis qu'on pourrait en débaptiser une ou l'autre quand même. Bien voilà, donc c'est la fin tout doucement de cet épisode sur les plaisirs de la table. On en fera évidemment d'autres parce qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets. Évidemment qu'on aurait pu parler des caricoles, évidemment qu'on aurait pu parler
des
spéculoos, mais
sûr.
On n'a pas pu tout le faire, les gaufres, c'est certain. Il y a 1001 sujets, mais on en fera beaucoup d'autres des plaisirs de la table. Ici, soyons bien clairs, c'était le plaisir de la table numéro 1.
Et puis moi j'ai envie de vous dire, les pistaches, si l'un d'entre vous a un restaurant, qu'il nous invite, on viendra avec plaisir déguster.
La rubrique spéciale Médis invite. J'adore cette rubrique.
Bien sûr. Et n'oubliez pas de nous envoyer des petits messages. Si vous avez un jour envie d'autocollants du Bruxelles Pistache Club, on vous les enverra.
Mais c'est certain, ça, on est une grande famille. Donc je rappelle simplement notre page Facebook du Bruxelles Pistache Club. On a également un compte Twitter, c'est le Bruxelles Pistache Club. Venez nous rejoindre, on s'amuse bien, vous en apprendrez plus, vous aurez des photos, tout ce qu'on a mangé, de tout ce qu'on a visité, tout ce qu'on a fait, de nos délires, et vous en apprendrez également plus sur notre belle région bruxelloise.
Merci, merci Thomas.
Tout ça n'est pas sérieux, mais tout ça est bien drôle. Alors à bientôt.
Et au Bruxelles Pistache Club, rien ne se perd, tout se transforme.
Tout se transforme, merci beaucoup, à très bientôt, on vous adore.
Au revoir.
Ciao, ciao, à bientôt pour un prochain épisode. On
merci,
vous adore,
merci, bisous, bisous, bisous.